Bonjour madame, monsieur, Nani Talani vous accueille pour votre rendez-vous quotidien et faire le point sur l'actualité. Au sommaire, au Mali, l'économiste Sissoko reste en prison malgré une demande de remise en liberté. À suivre la réaction de son avocat.
Takura a ordonné sa mise en liberté. Mais une fois que le procureur a eu connaissance de la décision, il s'est empressé de faire pouvoir, sachant que son pouvoir est suspensif en effet.
L'Ukraine dément les accusations de fourniture de drones aux rebelles du Mali. En Guinée, les affrontements entre manifestants et forces de sécurité contre une société minière chinoise font 2 morts et plusieurs blessés. Le président Diomaye Faye dévoile sa vision pour le Sénégal 2050, des réformes économiques majeures. Course à la Maison Blanche, Trump et Harris rivalisent pour gagner le cœur des Pennsylvaniens. En MAG, direction le Gabon, l'ex-parti au pouvoir, le PDG, déclare son soutien aux militaires au pouvoir. En économie, la BAD investit des millions de dollars pour le climat au Mali et au Zimbabwe. Enfin, en sport, les Lions indomptables du Cameroun qualifiés pour la CAN 2025. Tout de suite, le journal. Au Mali, Étienne Fakaba Sissoko ne bénéficiera pas de liberté provisoire. L'économiste avait été condamné en mai dernier à 2 ans de prison, dont 1 an ferme, pour atteinte au crédit de l'État. Lundi, donc hier, la délibération était attendue sur la demande de remise en liberté de son avocat pour raison humanitaire. Une demande rejetée par le pouvoir du parquet général. Ibrahim Malouf Sako est l'avocat d'Étienne Fakaba Sissoko. Il est au micro de Georges Attino.
On a sollicité la mise en liberté parce que nous estimions qu'on avait des arguments solides qui militaient en faveur de cette mise en liberté. Et fort heureusement, la Cour d'appel, dans sa formation collégiale du 7 octobre dernier, a accédé à notre demande. Les juges ont estimé qu'Étienne Fakaba Sissoko, au regard des garanties de représentation, au regard de son statut, de sa maladie, de la maladie de sa mère, de ses enfants, du fait qu'il est soutien des familles, au regard de ces considérations-là, la Cour a estimé qu'il est éligible à la mesure sollicitée. Et la Cour a ordonné sa mise en liberté. Mais une fois que le procureur a eu connaissance de la décision, il s'est empressé de faire pouvoir, sachant que son pouvoir est suspensif en effet. Malheureusement, va garder prison jusqu'à l'examen de son dossier au fond le 11 novembre.
L'Ukraine a démenti hier des allégations selon lesquelles elle aurait fourni des drones aux rebelles Touareg combattant au nord du Mali. Le journal français Le Monde a rapporté que les combattants Touareg du Mali utilisent des drones ukrainiens avec le soutien discret mais décisif de Kiev contre l'armée malienne et des combattants russes. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a fermement rejeté ces assertions. En août, le Mali avait déjà rompu ses relations diplomatiques avec l'Ukraine après des commentaires de Kiev sur les rebelles qui auraient eu accès à des informations conduisant à des attaques et ont tué des soldats maliens et des combattants russes. En Guinée, au moins 2 personnes sont mortes samedi dans des affrontements avec les forces de sécurité lors d'une manifestation contre une société minière chinoise dans l'extrême est du pays. Le point avec Eric Manirakiza.
Selon le correspondant local de l'agence guinéenne de presse, les manifestants dénonçaient la dégradation de l'environnement et la destruction des champs des villageois en pleine floraison par une société minière chinoise faisant de l'orpaillage. 4 personnes ont été blessées, 40 interpellées lors de cette manifestation qui a eu lieu dans la localité de Konkoui, près de Mandiana, proche de la frontière malienne, selon l'agence guinéenne. Cette situation regrettable a été causée par l'intervention des forces de défense et de sécurité qui ont fait usage d'armes à feu et de gaz lacrymogènes contre les protestataires, a souligné un habitant qui a fui au début des violences. Le village est vide, tout le monde est parti, des gens ont été traumatisés par les violences commises par des agents censés rétablir l'ordre, a déclaré Abou Diallo, vice-président de la délégation spéciale de Dialakoro, localité voisine de Kinkoi. De nombreuses entreprises chinoises exploitent les mines en Guinée qui recèlent d'importantes réserves de bauxite, de fer et d'or.
Au Sénégal, le gouvernement compte augmenter le revenu par tête de 50% en 5 ans. Le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko ont présenté hier pour la première fois un plan ambitieux à un an des législatives anticipées du 17 novembre. Les détails avec Rosine Mounezero.
Le plan Sénégal 2050 est une vision pour le Sénégal de demain, d'après le président Bassirou Diomaye Faye. Ce plan remet en question la stratégie des grands travaux suivis par l'ancien pouvoir et s'articule autour du développement de filières comme les industries extractives, l'agriculture et les services dont le numérique. Huit grands pôles doivent émerger, ainsi que des corridors routiers, ferroviaires et fluviaux. Ce plan promet un système national d'assurance maladie, une identité numérique fiable pour tous, une réforme de la justice, des institutions et du foncier. D'ici à 2029, donc la fin du mandat de M. Faye, le Sénégal doit jeter les fondements de son nouveau modèle en réduisant le déficit et l'endettement, selon Souleymane Diallo, directeur de la planification au ministère de l'économie. En 5 ans, le revenu moyen du Sénégalais devra passer de 1 660 $ à 2 468 $, soit une augmentation de près de 50%. Une belle promesse avant les législatives du 17 novembre.
Au Tchad, la presse en ligne exprime des inquiétudes face aux nouvelles mesures annoncées par les autorités pour renforcer le contrôle des médias à l'approche des élections législatives et communales prévues le 29 décembre. Les partis d'opposition dénoncent un climat délétère et expriment des craintes de fraude électorale, annonçant leur refus de participer aux élections. Au moins 12 personnes ont été tuées et 33 autres blessées en Égypte hier, après qu'un bus soit renversé sur une autoroute reliant le Caire à la côte de la mer Rouge, a déclaré le ministère égyptien de la Santé. Les médias nationaux rapportent que l'accident impliquait des étudiants de l'université de Galala. Ils ajoutent que les premières investigations ont conclu que le chauffeur du bus était en excès de vitesse et avait perdu le contrôle du véhicule. L'OMS annonce avoir récolté pour la période 2025-2028 près de $700 millions de nouveaux engagements financiers des États partenaires lors du sommet mondial de la santé à Berlin. Nous savons que nous faisons cette demande à un moment où les priorités sont en concurrence et les ressources limitées. C'est pourquoi j'ai demandé à chaque État membre et à chaque partenaire de se mobiliser. Chaque contribution compte, a déclaré le directeur général de l'OMS, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans un communiqué.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Commission européenne va proposer une nouvelle législation pour favoriser les expulsions de migrants en situation irrégulière, a annoncé la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, dans une lettre publiée hier soir. Actuellement, moins de 20% des décisions d'expulsion sont exécutées et Bruxelles cherche à renforcer la coopération avec les pays tiers en durcissant l'octroi de visa pour ceux qui ne coopèrent pas. Ursula von der Leyen a souligné l'importance de développer des relations stratégiques avec les pays d'origine et de transit des migrants, comme cela a été le fait avec la Libye et la Tunisie, où des accords ont contribué à réduire de 66% les entrées irrégulières par la Méditerranée centrale. Ici, aux États-Unis, Kamala Harris et Donald Trump ont remis le cap sur la Pennsylvanie, un État crucial pour la présidentielle. La démocrate ciblant ses efforts cette semaine sur l'électorat noir. Les précisions de Mohamedou Oumfa.
À 3 semaines du scrutin du 5 novembre, la vice-présidente a tenu un meeting en fin de journée dans la ville d'Erie, au bord du lac du même nom. Son équipe de campagne a dévoilé un peu plus tôt une série de propositions censées bénéficier directement aux Africains-Américains. Ce programme vise à aider les hommes noirs à lancer leur petite entreprise ou un commerce grâce à des prêts avantageux. Les mesures prévoient aussi des aides à la formation et à l'apprentissage, ainsi qu'un système d'accession favorisé aux métiers de l'éducation pour les hommes noirs. Donald Trump a lui parlé de sujets économiques avec des électeurs de la ville d'Oaks, en grande banlieue de Philadelphie, la plus grande ville de Pennsylvanie. L'équipe de campagne de M. Trump a affirmé que Kamala Harris est en état de désespoir complet face à l'hémorragie au sein des catégories de lecteurs, penchant traditionnellement côté démocrate. Madame Harris accuse en effet un retard dans les sondages auprès des hommes noirs comparativement à ses prédécesseurs démocrates engagés dans la course à la Maison-Blanche.
C'est tout pour les nouvelles. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. C'est l'heure de notre tour d'horizon des développements économiques et financiers avec Eric Manirakiza.
L'ABAD accorde 34,8 millions de dollars pour renforcer la résilience et l'adaptation au risque de catastrophe climatique des communautés vulnérables au Malawi et au Zimbabwe. Ces deux pays sont confrontés à des risques climatiques importants. Ils sont particulièrement vulnérables aux chocs climatiques tels que la sécheresse, les inondations et les cyclones tropicaux, ce qui contribue à leur fragilité. Le FMI supprime les commissions additionnelles sur les emprunts pour le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Gabon. Ces quatre pays africains ne vont plus payer des frais supplémentaires liés au dépassement de leur quote-part à partir de novembre prochain. Le FMI applique deux types de commissions additionnelles, appelées également surcharges. Ce mécanisme a été très critiqué par les économistes et les pays en développement en raison de sa contribution à l'alourdissement du fardeau de la dette. Investissement mis en cause, réflexion sur une possible délocalisation. De nombreuses entreprises aux États-Unis se préparent moins d'un mois avant l'élection présidentielle à la possible hausse des droits de douane et s'attendent à entrer dans une zone de turbulence économique. La vice-présidente Kamala Harris, candidate démocrate, fait partie d'un gouvernement qui a conservé ceux mis en place par les produits chinois par l'ex-président Donald Trump et en a même ajouté plus ciblé.
Maintenant, bienvenue dans notre segment sportif où nous vous livrons les dernières nouvelles et analyses des compétitions africaines. Nous accueillons Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba, bonjour à tous.
Bonjour Namit, bonjour à tous.
Le Cameroun a arraché hier son ticket pour la prochaine CAN Maroc 2025.
Oui, les Lions Indomptables concrétisent un deuxième succès de suite dans la double confrontation face au Kenya, battu à l'aller 4-1. Le Cameroun totalise ainsi 10 points en 4 journées et est sûr de finir au pire des cas deuxième de sa poule J et est donc rassuré d'être au rendez-vous du Maroc en 2025. Pour notre consultant Jules Valentin Ngoué, cela est la conséquence de l'accalmie retrouvée entre la Fédération Camerounaise de Football et le ministère des Sports.
C'est parce que là, la guerre était déjà enterrée et donc le problème et la sérénité étaient revenus dans l'environnement des Lions qui ont pu bien se préparer et tout a fonctionné entre les deux institutions.
Jules Valentin Ngoué, consultant sportif.
De nombreuses nations sont proches de valider leur ticket en cas de victoire aujourd'hui.
C'est le cas du Sénégal, champion d'Afrique en titre, s'il bat le Malawi qui a été écrasé à l'aller 4-0. Les Lions de la Teranga réussissent ainsi le début de l'après à Aliou Cissé, selon notre consultant sportif, Amdine Sy.
Pour en revenir sur Fatou, le successeur de Aliou Cissé, il a réussi son baptême de feu. Non seulement le Sénégal a battu par 4-0, marqué 4-8 sans pour autant en encaisser, c'est déjà une bonne chose, mais ça faisait 6 matchs, Yacouba, que le Sénégal n'avait plus marqué plus d'un but. La dernière fois que le Sénégal avait battu une équipe sur le score de plus d'un but, c'était contre la Guinée lors de la Coupe d'Afrique le 23 janvier 2024. C'était à Yamoussoukro. Jackson Kouf son contre Bouraïa qui réussit son combat. C'est bien, mais attention, encore une fois, c'est une mauvaise équipe du Malawi qui a joué en infériorité numérique depuis la 15e minute.
Amdine Sy, consultant sportif. Le Mali aussi et son nouveau sélectionneur se qualifieraient en cas de succès face à la Guinée-Bissau dans le groupe I. Début réussi pour Tom Sanfiet, d'après notre consultant Élisée Mpatin.
Il a commencé timidement avec un coup succès, une victoire étriquée. Mais après, eh bien, il a commencé par prendre sa marque. Une fois encore, on aura une très bonne sélection malienne qui ira chercher facilement sa qualification.
Élisée Mpatin, consultant sportif. La championne d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire, première de la poule G avec 9 points, se qualifierait aussi si elle bat la Sierra Leon, pareil pour l'Égypte en tête du groupe C avec 9 points. Face à la Tanzanie, un match nul suffira aussi à la République démocratique du Congo qui compte 3 victoires en 3 sorties. L'Angola est aussi en pole position pour voir le Maroc en cas d'un match nul contre le Niger. Eux aussi sont très proches. Il s'agit du Nigeria qui affronte la Libye et le Bénin qui défie le Rwanda.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous suivez toujours notre session d'information sur la Voix de l'Amérique. Restez avec nous pour notre rendez-vous magazine, toujours avec Nanit Talani. Au Congo, la grève des professeurs de l'Université Marie Ngouabi de Brazzaville est entrée dans sa troisième semaine depuis hier lundi 14 octobre. Les professeurs réclament toujours le versement de plusieurs mois de salaires impayés. Les étudiants, bien qu'en soutien à leurs enseignants, s'inquiètent des conséquences sur le déroulement de leur année académique. Pour en parler, Eric Manirakiza a joint à Brazzaville Jean-Didier Mbélé, président de l'intersyndicale de l'Université Marie Ngouabi de Brazzaville.
Nous sommes à 2 mois et demi sans salaire et nous demandons à ce que le gouvernement de la République du Congo nous verse tous les salaires impayés. Nous avons un complément de notre salaire, ce sont les heures de vacation. Et nous réclamons également ces heures de vacation qui s'élèvent à 6 ans. Nous demandons à ce que l'État congolais nous paye à peu près ou au moins la moitié de ces heures. C'est vrai que le dialogue avec les institutions ou les autorités gouvernementales et universitaires n'est pas rompu. Nous sommes en contact, mais jusque-là, ce qu'ils nous ont proposé n'a pas encore donné satisfaction à nous. Il y a une troisième doléance, hein, c'est la signature d'un protocole d'accord avec le gouvernement de la République. On en a fait par le passé. Il y a eu un moment comme ça d'un pays accumulé et on en était sorti grâce à ce protocole d'accord. Nous voulons que le gouvernement réitère ou répète ce mode de règlement de conflit, c'est-à-dire le protocole d'accord entre les deux parties. Et il y a un gain de part et d'autre. Et donc, actuellement, l'ensemble des travailleurs de l'université Marie Ngouabi sont à la maison, viennent pas travailler. L'université Marie Ngouabi, c'est 46 500 étudiants. L'université d'administration de gestion fonctionne actuellement. Les enseignants sont payés. C'est le même pays, bien sûr, mais nous demandons simplement la justice. Voyez-vous, les enseignants du lycée, donc du secondaire, collège et lycée, sont payés régulièrement. Et nous qui sommes du supérieur, nous ne sommes pas payés. Voilà pourquoi. Jusqu'au moment où je vous parle, nous restons en grève. Et la grève à Brazzaville, à l'université Marie Ngouabi, est très bien suivie.
Et que vous dit le gouvernement quand les autres sont payés et que vous, vous n'êtes pas payé à l'université Marie Ngouabi? Que répond l'État?
Non, je réponds que les caisses du trésor sont vides. Et qu'on leur laisse du temps pour réfléchir, chercher des moyens. C'est-à-dire que, pour l'instant, ils disent qu'il n'y a pas d'argent pour payer. C'est un peu la réponse que nous avons de façon froide, hein, nette et précise. Il n'y a pas d'argent, le pays est endetté et il faut payer les dettes extérieures, l'encours de l'endettement, ce sont leurs raisons. Mais nous attendons, nous voulons que nous soyons aussi compris.
Quelles sont les répercussions ou les conséquences sur la vie académique?
Les concours d'entrée dans les écoles, les grandes écoles de formation, ne se déroulent pas. L'Université Marie Ngouabi, c'est 11 établissements. On a 4 écoles, 5 facultés et 2 instituts. Et pour l'instant, rien ne se déroule. Pas d'examen, pas de correction de copies, pas de concours d'entrée. Jusque-là, la rentrée universitaire à l'Université Marie Ngouabi n'a pas encore eu de rentrée académique et universitaire.
Jean-Didier Mbélé, président de l'intersyndicale de l'Université Marie Ngouabi de Brazzaville.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Gabon, l'ex-parti au pouvoir brise le silence et se relance dans le jeu politique. À l'occasion de sa rentrée politique, le PDG a déclaré son soutien aux militaires au pouvoir depuis le coup d'État du 30 août 2023. Parmi les grands absents du rendez-vous organisé par la nouvelle direction du parti, Ali Bongo Ondimba, l'ancien chef de l'État gabonais, vit toujours en résidence surveillée au nord de Libreville. Le point avec notre correspondant Ismaël Obianzi.
Près de 4000 militants se sont mobilisés dans un palais des sports de Libreville de 6000 places environ. Pour une rentrée politique post-coup d'État, le PDG réapparaît sur la place publique, fragilisé par les démissions en cascade et des guerres de posture en interne. Angeline Gomain, secrétaire générale par intérim du PDG.
Nous devons nous réinventer pour pouvoir relever les défis du présent et du futur. Camarades, militantes et militants, le temps est venu de rebâtir. Le temps est déjà là pour construire, pour reconstruire, à brève échéance, une offre politique durable, utile et crédible.
Après plus d'un demi-siècle de règne à la tête du Gabon, le parti fait son introspection hors des arcanes du pouvoir. L'heure de la repentance semble avoir sonné pour Paul Biya Ogemba et les siens. Il est le premier vice-président du PDG.
Il faut accepter la critique justifiée et consultée. Il faut accepter le débat d'idées. Il faut rechercher la justice, l'honnêteté, négliger l'équité. Si le parti n'exerce plus le pouvoir en tant que tel, il doit au moins en être une composante incontrôlable.
À l'heure de la renaissance et de la reconstruction du Parti démocratique gabonais, les responsables des organes de base se disent prêts pour un nouveau départ. Christophe Ifa, membre de l'Union des jeunes du PDG dans la province du Walintem.
Nous sommes là pour pouvoir prendre les instructions, prendre les nouvelles directives, apprendre auprès de nos aînés, de nos dirigeants pour que nous allons sur le terrain relayer la bonne information qui est celle que le parti vit.
En pleine survie, le PDG se convainc d'être encore capable de grandes conquêtes politiques, Solange Nathalie Ogula, membre de l'Union des femmes du parti.
Nous, les femmes de l'UFPDG, toutes provinces confondues, sommes debout, nous sommes là, nous militons, nous restons fermes à notre tronc, notre baobab, et la suite nous dira.
Le PDG soutient la transition dirigée par les militaires, tombeur d'Ali Bongo Ondimba. L'ex-président gabonais, par ailleurs ancien président du Parti démocratique gabonais, a renoncé récemment à la vie politique. Ismaël Obianze pour VO Afrique, Libreville.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Le président américain Joe Biden a visité hier les zones touchées par l'ouragan Milton en Floride et a annoncé un nouveau financement d'un demi-milliard de dollars pour améliorer le réseau électrique. Même si les efforts de secours se poursuivent, les responsables avertissent que la désinformation se propage rapidement à l'approche des élections de novembre. C'est un reportage de Patrick Bresnan en Caroline du Nord. Le récit est de Mohamed Oufa.
Le président Joe Biden a visité dimanche les zones dévastées par l'ouragan Milton en Floride. Il a annoncé un financement de 612 millions de dollars pour soutenir les communautés touchées par les ouragans Milton et Helen.
Ce financement permettra non seulement de rétablir l'électricité, mais aussi de renforcer le réseau électrique de la région et de réduire la fréquence et la durée des coupures de courant alors que les phénomènes météorologiques extrêmes deviennent de plus en plus fréquents.
Cependant, la désinformation sur la réponse du gouvernement fédéral s'est rapidement propagée. Le ministre de la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a déclaré dans l'émission Face the Nation de la chaîne CBS qu'il était vraiment préoccupé.
C'est extrêmement pernicieux. Nous avons des personnes qui ont besoin d'aide, qui ont droit à l'aide, mais qui ne la demandent pas à cause de ces fausses informations. Nous avons besoin d'individus, d'élus, de personnes qui ont la possibilité de démystifier ces fausses informations. Et nous n'en voyons pas assez.
La candidate démocrate Kamala Harris a passé le week-end en Caroline du Nord. Samedi, elle s'est jointe aux opérations de secours, alors que la partie occidentale de l'État est toujours aux prises avec les conséquences de l'ouragan Helen. Son rival, le candidat républicain Donald Trump, a critiqué l'administration Biden pour ce qu'il considère comme une mauvaise réponse aux ouragans. Le candidat de M. Trump à la vice-présidence, J.D. Vance, a été interrogé dimanche sur les faussetés véhiculées par l'ancien président, notamment sur le fait que l'aide aux sinistrés républicains est intentionnellement retenue par les agences du gouvernement fédéral ou donnée à des sans-papiers.
Nous avons des membres républicains du Congrès qui sont sur le terrain, qui disent qu'ils doivent appeler la Maison-Blanche pour obtenir de la nourriture et de l'eau pour la FEMA. Je pense
que nous avons eu une réponse incompétente à cette crise particulière.
La VOA a visité les zones dévastées par l'ouragan dans la ville d'Asheville, en Caroline du Nord, et s'est entretenue avec certaines personnes touchées sur la réponse du gouvernement.
D'après ce que j'ai vu juste dans les airs, les hélicoptères, je vais dire que je pense qu'il y a une réponse décente.
Nous n'avons pas encore reçu d'aide de notre gouvernement, de la FIMA ou de la municipalité, mais cela ne saurait tarder.
Alors que les ressources s'épuisent, l'administration Biden demande au Congrès d'approuver des fonds supplémentaires pour les catastrophes avant l'élection présidentielle du 5 novembre.
Toujours ici aux États-Unis, depuis 2019, l'État de Californie célèbre officiellement la Journée des peuples autochtones au lieu de Columbus Day, reconnu par le gouvernement fédéral, qui tombe tous les deuxièmes lundis d'octobre. Jenna Doulot, de la VOA, a assisté hier à la célébration au musée Getty de Los Angeles, qui a attiré environ 2000 personnes. Le récit de Yakuba Ouedraogo.
Andrea Jiménez, fondatrice du Hair Club LA, nous fait visiter un jardin au musée Getty de Los Angeles lors d'un festival célébrant la journée des peuples autochtones. Elle montre aux visiteurs des plantes indigènes de Californie, par exemple l'achillée millefeuille, une plante à fleurs connue pour ses propriétés médicinales.
Les peuples indigènes l'utilisaient pour guérir les blessures, les indigestions, toutes sortes de choses, et elle est connue comme l'une de ces plantes que l'on a qualifiées de panacée.
La troisième célébration annuelle de la Journée des peuples autochtones au musée Getty a attiré environ 2000 personnes, ce qui fait de cet événement l'un des plus importants de Los Angeles, selon la fondatrice du festival Chelsea Anderson.
La mission du festival familial est de partager les ressources des artistes et des créateurs de la diaspora indigène à Los Angeles. Nous aimons la composante éducative, le partage des traditions du passé, mais nous célébrons aussi les voix contemporaines et les artistes contemporains.
L'un des artistes, Chigo Bililiso, danseur de la Wild Horse Native American Association, affirme que la journée des peuples indigènes est une reconnaissance de son peuple qui vivait sur ces terres avant l'arrivée des Européens.
Je me souviens qu'en grandissant, certains professeurs ne savaient même pas que nous existions. Certaines personnes pensent que nous avons disparu, mais ce n'est pas le cas. Nous sommes ici, nous sommes vivants, nous nous portons bien et nous prospérons. Et nous transmettons cela à la génération suivante, nos chants, nos danses, nos traditions.
L'État de Californie ne célèbre pas le Columbus Day, l'ayant remplacé par l'Indigenous People's Days en 2019. Solange Aguilar, une poétesse amérindienne, raconte qu'en grandissant, elle a eu du mal à célébrer le jour de Christophe Colomb.
On raconte qu'il a découvert l'Amérique, mais on ne peut pas découvrir quelque chose quand il y a déjà des gens sur place. Il est important d'apprendre l'histoire, de comprendre qu'il était vraiment un mauvais garçon, qu'il était horrible et que son histoire est une chose réelle, le véritable traumatisme que nous portons.
Erika Brandwall, qui a quitté Columbus le mois dernier pour s'installer à Los Angeles, célèbre pour la première fois la journée des peuples autochtones avec sa famille. Elle pense que la reconnaissance des peuples autochtones va assurer un meilleur avenir à ses enfants métis.
Il est important pour nous que nos enfants puissent grandir sans que les gens fassent autant de suppositions à leur sujet sur la base de la couleur de leurs cheveux, de la couleur de leur peau ou de leur nom de famille.
Le Columbus Day est actuellement un jour férié fédéral aux États-Unis, contrairement au Indigenous People's Day, dont le statut varie d'un État à l'autre. Ce lundi, la ville de New York a organisé l'un des plus grands défilés de Columbus Day du pays, célébrant l'héritage, la culture et les réalisations des Italo-Américains.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
C'est ici que nous concluons cette édition du Monde aujourd'hui. Au micro, Nanit Talani, à la réalisation firmée Max Kouyaouida, à la technique, Kelvin Fowler. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez à l'écoute pour plus d'informations et d'analyses sur VOA Afrique.
Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite un excellent début de journée.